Bonjour chers amis, Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons étudier Daf Pezaïn, la page 87 du traité Bava Batra. Nous nous trouvons à la fin de la page 86, deux lignes avant la fin, deux mots avant la fin de la ligne. Alors la Gemara avait rapporté un enseignement de Rav et Shmuel qui disait comme ça. Eux, il enseignait, s'il y a un vendeur qui dit à l'acheteur, regarde, je te vends, alors avant de dire l'enseignement, juste préciser qu'un cours, c'est une grande mesure qui contient dedans 30 CA. Donc si le vendeur il dit à l'acheteur, je te vends un cours, en parenthèse 30 CA, je te vends un cours contre 30 pièces. Dans ce cas-là, ce que le vendeur il voulait dire à l'acheteur, moi je veux vendre un cours entier. Et si tu ne vends pas, tant qu'ils n'ont pas vendu, que le vendeur n'a pas donné à l'acheteur la totalité, la vente, la transaction n'a pas été faite, s'il veut, il peut changer d'avis. Par contre, si le vendeur il a dit à l'acheteur, je te vends un cours contre 30 CA, contre 30 pièces, chaque CA contre une pièce, ah, s'il a dit ça, c'est qu'il a voulu que ça soit chaque CA, chaque mesure, chacune des donc chaque 30e de cours, ça sera contre une pièce. Et donc si maintenant il lui a donné 5 CA, ce qu'il lui a placé, ce que le vendeur il a mis dans le récipient de l'acheteur il acquiert, mais pas, et pas le reste quoi, donc il peut changer d'avis sur la suite, mais pas sur ce qui a été mis dans le récipient, pas sur chaque mesure qui a été mise dans le récipient de l'acheteur. Parce que ça s'appelle, ce sont comme des, quand on précise, ce sont comme de nouvelles mesures qui existent. C'est séparé. On ne parle pas d'une grande quantité d'un cours, mais on parle de plusieurs mesures. Sur ce, Yagmara, oui, Tashma, viens, écoute. Il est enseigné comme ça. Asocher et hapoel la'asot imo lagoren. Celui qui a loué des ouvriers, un ouvrier, pour travailler avec lui lorsque ça sera le moment de travailler dans la grange. Donc, en été, quand il aura besoin de travailler dans la grange, lui, il ne se trouve pas encore en été, il se trouve au printemps. Et il dit à l'ouvrier, travaille avec moi dans la grange en été, je te paye maintenant. Tu vas travailler avec moi 100 jours. En général, le prix d'une journée, c'était 4 pièces, 4 dinars, à savoir un sela. Mais lui, il dit, donc normalement, il devrait lui donner 400 pièces. Il lui dit, je te donne maintenant, je te paye tout de suite, mais moi, je t'engage que si tu me fais une pièce par jour. Et il a été d'accord, l'ouvrier a été d'accord. Donc, la sotimo legoren hayom beninar, il lui dit aujourd'hui je te donne une pièce par jour que tu travailleras chez moi, mais je te le paye aujourd'hui. Mais la goren y a fait, c'est là. Et en réalité, quand le moment arrivera de travailler dans les granges, un ouvrier, normal, ça se paye contre un c'est là, savoir 4 pièces, 4 dinars. Asur lehenot emenu de la Gemara, c'est interdit de profiter de lui, ça veut dire. Celui qui a le propriétaire de la grange, il n'aura pas le droit d'utiliser le service de son ouvrier. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on comprend que c'est une loi de ribit. C'est une loi de comme un prêt qu'on n'a pas le droit de prêter de l'argent contre des intérêts, de recevoir des intérêts. Lui aussi, c'est un peu comme si cet homme-là, il a donné de l'argent, le patron, il a donné de l'argent à son ouvrier en printemps. Il lui a donné 100 pièces. Et l'ouvrier, il va lui rendre 400 pièces. Il va lui rendre 100 jours, que chaque jour, c'est un travail de 4 pièces. 400 pièces, il lui rend. C'est interdit. Tout ça, c'est dans le cas où, entre le moment où l'ouvrier ne commence pas à travailler tout de suite. Mais si l'ouvrier commence à travailler tout de suite, dit la Braïta, ce n'est pas un problème. Aval im sraro mehayom beninar leyom. Mais s'il lui a loué à partir d'aujourd'hui, donc tu recevras une pièce par jour pendant 100 jours. Bien que normalement c'est 4 pièces, et je te paye tout de suite les 100 pièces, bien qu'en général c'est 4 pièces par jour. Mais la goren y a fait cela, et au moment donc pour travailler dans la grange, ça coûte 4 pièces par jour. Moutard, dans ce cas-là, c'est permis. La Gemara, elle comprend pourquoi c'est permis. Parce que dans ce cas-là, c'est pas un cas d'intérêt. Puisque c'est comme s'il lui a commencé, il lui a payé tout de suite. C'est quand un intérêt, c'est quand il y a eu un prêt. Quand il lui a payé pour, il lui a donné de l'argent, et il lui rembourse que plus tard. Mais là, il lui a donné de l'argent pour tout de suite. Et il travaille, cet ouvrier, il travaille tout de suite. Il commence tout de suite et c'est un long travail qui dure pendant 100 jours. Or, dit la Gemara, pourquoi on considère, d'après ce qu'on a dit avant, Comme cet homme-là, il lui a dit, voilà, je te paye pour chaque jour une pièce. Le patron, il a dit à l'ouvrier, je te paye chaque jour une pièce. Donc ça veut dire qu'il a... que c'est un peu comme l'idée qu'on a vue avant, qu'il lui a dit que, il lui a précisé, chaque pièce, chaque CA pour une pièce. Je te vends un cours pour 30 CA, pour 30 pièces, chaque CA pour une pièce. Donc on devrait dire que puisqu'il lui précise chaque pièce pour une... puisqu'il lui précise chaque jour une pièce, on devrait considérer comme s'il s'agit de plusieurs obligations différentes, plusieurs engagements différents qui existent, et dire, bon, pour le premier jour, peut-être, ce n'est pas interdit, puisque tout de suite, il a commencé à lui rembourser, mais après, c'est comme s'il lui a prêté de l'argent et qu'il lui remboursera le lendemain, il remboursera le surlendemain, le quatrième jour, etc. Et ça devrait être interdit, comme on a vu avant dans le premier cas, que si il y a eu un espace, une séparation entre le paiement et le début du travail, c'est interdit. Oui, c'est ce que dit Agmara. Oui, c'est que t'as recours Bechoshim Sea, Sea Besela, ni mocher lecha, Rishon Rishon Kana. Or, si on pense que dans le cas où l'acheteur dit au vendeur, voilà, je te vends un cours contre 30 pièces, Sea Besela, une Sea contre une mesure d'une Sea, donc un 30e de cours contre un Sela, je te vends Rishon Rishon Kana. Alors, on dit que chaque mesure qui arrive chez l'acheteur, l'acheteur il acquiert. Pourquoi? Parce qu'on considère pas ça une grande entité. Donc dans ce cas-là, Achinami, Kama, Kama, Mifsak, Pasak. Aussi, on devrait dire que chaque jour, ce qui arrive, c'est une autre, c'est pas une grande entité, mais il y a des interruptions. Bah, sur les notes, Hemenu, et le patron, il devrait pas pouvoir profiter de cet employé. Il pourrait pas travailler pour lui. Et donc, Midinar, Leyom, Velagoren, Yafesela, Moutar, Amay. Pourquoi on a enseigné que s'ils ont convenu que donc tout de suite tu vas commencer à travailler et tu vas recevoir un dinar par jour, alors qu'au moment de on travaille dans les granges, ça coûte 4 dinars pour travailler, pourquoi on dit que c'est permis? Va Garnatarli, ou pourtant ça revient au cas d'un emprunt avec intérêt, comme on l'a vu avant. Sur ce, dit Agmara, non, non, non. En réalité, il ne s'agit même pas ici d'un interdit qui arrive parce que c'est un prêt avec intérêt. Amar Rava dit Rava Avetis Bera, penses-tu vraiment que ici l'interdit il arrive parce que c'est vraiment, il y a un intérêt, il y a un prêt avec intérêt? Zilzoule Besrirut Miasir, est-ce que quelqu'un n'a pas le droit de se mépriser lorsqu'il veut se louer son service? Il veut se louer, il veut être employé, un employé il gagne. 200 € par jour et lui il veut 10 € par jour. Il a le droit. S'il veut. C'est quelqu'un, il décide ce qu'il veut. Peut-être qu'il a beaucoup besoin d'argent. Peut-être qu'il veut. Peut-être qu'il voulait pas. Il veut simplement. Il y en a qui. Et il voulait. Il savait pas quoi faire aujourd'hui. Il voulait travailler. J'en sais rien. Il peut faire ce qu'il veut. C'est pas ça un prêt avec intérêt. Un prêt avec intérêt, c'est dans le cas où il y a eu un prêt. Dans le cas où il y a eu une vente et l'acheteur paye que plus tard. Mais pas dans le cas où il y a eu où quelqu'un il décide de louer un employé moins cher. Où l'employé il est d'accord. Alors maintenant, pourquoi dans le premier cas on a dit que c'était interdit? Pas parce que vraiment il y a un intérêt ici, comme c'est interdit de prêter et d'emprunter avec un intérêt. Mais là, c'est pas un, y a, on parle pas qu'il y a vraiment un intérêt. Mais ça ressemble comme s'il y a eu un emprunt, un intérêt. C'est ce que la Gemara dit. Ou Maishna Risha ou Maishna Sefa. C'est quoi la différence entre le premier cas et le deuxième cas? Pourquoi au départ on a dit que c'était oui interdit, dans le cas où il commencera à travailler que plus tard? Au départ, dans le premier cas où il commence pas à travailler tout de suite, l'employé ne travaille pas tout de suite avec chez le patron, dans ce cas-là, ça ressemble, c'est pas que c'est vraiment, mais ça ressemble à un cas où il est en train, à Garnatarli, qu'il est en train de lui prêter avec intérêt, il lui paye l'attente du paiement, l'attente de son argent, c'est-à-dire c'est un prêt avec intérêt. C'est fa de kaavid behadé, L'omirze qui a Garnatarli. Par contre, dans le cas d'après où il commence à travailler tout de suite, l'employé travaille tout de suite chez le patron, ça ne ressemble pas à un cas d'un prêt avec intérêt, ça ressemble pas à une dette qui existe et qui est remboursée avec des intérêts, donc c'est pour ça que c'est permis. On avait enseigné dans la Mishnah, si la marchandise a été, donc le lin, on parlait là-bas du lin qui était rattaché au terrain, au sol encore, et l'acheteur, il prend un petit peu, il a déraciné, il a détaché, cueilli un petit peu de ce lin, un tout petit peu, il acquiert la totalité. Derima, comment ça se fait? Pour acquérir Le lin, c'est un bien mobile. C'est de la marchandise. Donc pour l'acquérir, pour l'instant, ce que la Guimara a compris, c'est qu'on va tirer un peu de lin, et donc on va acquérir le reste du lin. C'est pas bon, pour acquérir un objet mobile, du lin ou d'autres marchandises, il faut tirer la totalité. Pas juste un petit peu et acquérir le reste. Demande la Guimara. Mishum de talash kol jehu kana. Puisqu'il a un peu cueilli un petit peu de ce lin, alors il acquiert le reste du lin. Pourquoi? La Guimara comprend que comment on acquiert maintenant le lin? En le tirant. Donc, ce qu'on a tiré, on acquiert, mais pas le reste. Répond la Guimara, Amar Rav Shechet, dit Rav Shechet, Acha be me'askinan, de Amar le, lecha, lech yafe lecha karka kol shehu, vekane kol ma she'alia. Dit la Guimara, autre chose, non, non. On parle que le vendeur, il a dit à l'acheteur, va, et tu vas littéralement rendre un petit peu bien le terrain. Ça veut dire tu vas cueillir quelque chose quand on cueille le lin qui existe. Ça nous permet après de repasser. Donc quand on va cueillir tout le champ, on va comme ça repasser. Après on pourra labourer à nouveau et faire pousser d'autres choses. Donc tu vas un petit peu arranger le terrain, cueillir quelque chose et comme ça quoi, quand on arrange un peu le terrain, c'est une des possibilités d'acquérir un terrain. Si le vendeur, il est d'accord. Maintenant, le vendeur, il dit à l'acheteur comme ça. Tu ne vas pas acquérir le terrain lui-même, mais tu vas acquérir juste ce qui est rattaché au terrain, à savoir le lin qui est rattaché au terrain. Je te le laisse acquérir. Tu vas un peu cueillir du lin. Et comme ça, tu ne vas pas acquérir le terrain, mais le lin qui se trouve attaché aussi au terrain. Et ça marche. C'est ce qu'on nous enseigne que ça marche quand même. Point. Dit la Gemara, dit la Mishnah, Amocher yayin veshemen l'chavero, celui qui vend du vin et de l'huile ou de l'huile à son ami, veokru osheuzlu. Et voilà qu'après qu'ils ont déjà décidé le prix, il y a eu une augmentation des prix ou alors une baisse des prix. Alors est-ce qu'ils peuvent changer d'avis ou pas? Ça dépend. Imad shelonit malet hamida la mocher. Si la mesure dans laquelle on calcule n'a pas encore été, donc on n'a pas encore rempli, on a décidé 1 litre. Et on n'a pas encore rempli ce récipient où il y a pour calculer le litre. Alors dans ce cas-là, ça appartient encore au vendeur, donc ils peuvent changer d'avis s'ils veulent. Il n'y a pas encore eu de vente. Par contre, Mishnit Malet Hamida, quand la mesure elle a été oui remplie entièrement, la lokéar s'est passée déjà à l'acheteur. Le vin ou l'huile sont arrivés dans la propriété de l'acheteur et donc plus personne ne peut changer d'avis. Alors comme on verra dans la Gemara Bezrat Hashem, on est en train de parler que cette mesure n'appartient ni à l'acheteur ni au vendeur. Elle appartient à quelqu'un d'autre qui leur a prêté. Et quand quelqu'un y prête pour faire une transaction, il prête à deux personnes un récipient pour faire une transaction dedans. Il dit comme ça, tant que vous avez fini de la remplir, alors je vais acquérir, avant qu'elle soit remplie pour que ça puisse faire la transaction, ça sera au vendeur. Et une fois que vous allez finir de remplir, je le donne à l'acheteur. Je donne ce qui est. Donc, ça sera à l'acheteur. Donc, dès qu'on a fini de remplir, c'est maintenant l'acheteur qui est propriétaire, qui a emprunté. C'est lui l'emprunteur de ce récipient. Et donc, il acquiert. Maintenant, Vimaya Sarsour Benehen, s'il y avait un intermédiaire entre, un intermédiaire que lui, il s'occupait, c'était de son travail. Il achetait de un, il vendait à l'autre. Et c'est lui qui faisait les transactions. Il se trouve au milieu en train de faire la transaction entre. Dans ce cas-là, nous dit la Guimara, à cet intermédiaire, donc il fait passer dans son récipient et après il vend à quelqu'un d'autre. Imaginons qu'il a fait passer dans son tonneau le vin pour le vendre à quelqu'un d'autre. Il a dit, toi, tu vas acheter? Lui, il savait à quel prix. Là, je te vends à ce prix. Là, l'acheteur à tel prix. Comme ça, il gagne un petit peu de différence. Il a dit, voilà, alors fais passer dans mon tonneau et après je te fais passer dans ton tonneau. Ça s'appelle, cet intermédiaire n'est pas considéré comme un simple envoyé. C'est comme s'il achète et il revend. Donc si au moment où ça se trouvait chez lui, le tonneau il s'est cassé et le vin il a coulé par terre, c'est lui qui est perdant. Vimaya Sarsour Benhen, s'il y avait un intermédiaire entre eux, Nishbera Havit, Nishbera la Sarsour. Si le tonneau il s'est cassé, eh ben c'est cet intermédiaire qui est perdant. Continue la Mishnah, il dit Vechayav le Atiflo Shalosh Tipin. Lorsque quelqu'un y vend à son ami, je dis à son ami, on ne parle pas d'un épicier ici, comme on verra dans la suite. Si quelqu'un y vend à son ami du vin, ou de l'huile. Donc d'abord il faut entièrement vider tout ce qu'il y a. Et une fois que ça commence à goûter, il faut attendre qu'il y ait encore. C'est-à-dire quand une fois que ça a fini de couler, on va dire, il faut attendre qu'il y ait encore 3 gouttes quand ça coule difficilement, il faut attendre qu'il y ait encore 3 gouttes qui coulent et qui arrivent chez l'acheteur. Et après, c'est bon. Hirkina, si après avoir fait ça, Hirkina ou Mitzit, Harehu shel mocher. Si quand même le vendeur, donc il avait convenu, je te vends un tonneau de vin, il lui a donné, donc il a fait passer de son tonneau vers l'autre tonneau, ou de l'huile, il l'a fait passer vers le tonneau de l'acheteur, après il a essayé aussi les 3 gouttes, si encore, après le vendeur, il a mis d'une certaine manière le tonneau et l'huile, ou le vin, c'est regroupé dans un certain endroit, ça appartient au vendeur et pas à l'acheteur. Vechen vani eno chayav la'atif shalosh tipin, mais nous dit Gemara, la Mishnah, l'épicier, lui, comme il vend à beaucoup de personnes, il n'a pas besoin de laisser d'attendre ces trois, de laisser ces 3 petites gouttes aussi pour le vendeur, pour l'acheteur, comme nous explique le Rashbam, puisqu'il vend à beaucoup de personnes et ça va lui faire perdre trop de temps. Alors les sages, ils n'ont pas voulu l'obliger de faire ça. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Erev Shabbat imchashecha patour, dit Rabbi Yehuda, la veille de Shabbat. Lorsque c'est juste avant la tombée de la nuit, dans ce cas-là, il n'a pas besoin. Qui n'a pas besoin? Parce qu'on parle d'une personne normale, que d'après Rabbi Yehuda, même cette personne normale, qui n'est pas un épicier, quoi, n'a pas besoin de laisser. Ou alors on parle de l'épicier, ce qu'on vient que d'après Rabbi Yehuda, c'est juste la veille de Shabbat qu'il n'a pas besoin de laisser. On verra dans la Gemara Bezrat Hashem. Dit la Gemara, Hamida Deman. De la première partie, on a vu donc que si. Il y a eu quelqu'un qui vend de l'huile ou du vin. C'est la même chose aussi pour le reste, mais ça a été ça, l'huile, le vin, on a parlé pour la suite. Comme ça nous disent le Rashbam et d'autres commentateurs. Si on a rempli la mesure, avant d'avoir rempli la mesure, ça s'appelle que ça reste encore chez le. C'est la propriété du vendeur. Et donc on peut changer d'avis. Après avoir rempli la mesure, ça s'appelle la propriété de l'acheteur et on ne peut plus changer d'avis. Diagmara, à qui ça appartient à cette mesure, ce récipient dans lequel on utilise pour mesurer, à qui il appartient? Ilima mida de lokeach, s'il appartient à l'acheteur. Atlonit melet mida la mocher. Quoi? Avant qu'on n'a pas rempli entièrement la mesure, ça appartient au vendeur? Pourquoi mida de lokeachi? Pourtant, c'est une mesure qui appartient à l'acheteur. Et quand tout ce qui arrive dedans, ça appartient pour l'acheteur. Vela amida de mocher. Seulement, on va dire peut-être qu'on parle d'un récipient qui appartient au vendeur et pas à l'acheteur. Si c'est ainsi, mishinit malet mida la lokeach. Quand le récipient il a été rempli entièrement, alors ça appartient maintenant à l'acheteur. Pourquoi? Mida de mocheri. Pourtant, ça c'est un récipient qui appartient au vendeur. Et même dans le cas où ce récipient il se trouve dans le terrain de l'acheteur. Il y a un doute dans ça. Est-ce que, mais à plus forte raison si le terrain, ça se trouve, on se trouve pas dans le terrain de l'acheteur. Donc de quoi on parle ici? Amar Rabbi Elhad, sur ce Rabbi-là, il a dit, Bemidat Sarsour. On parle d'un récipient pour lequel on a fait, avec lequel on fait des mesures, qui appartient à un intermédiaire, à quelqu'un d'autre qui leur a prêté. Donc ça peut être un intermédiaire ou quelqu'un d'autre même, qui n'est ni l'un ni l'autre, qui leur a prêté. Point. Dit la Gemara, ah oui? Mais ça, on a parlé, ça c'est le cas suivant de la Mishnah qu'on parle qu'il y a un intermédiaire. Donc c'est-à-dire pour l'instant, on parle qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Vera, mais des katanés, c'est pas pourtant, puisqu'il y a écrit dans la suite de la Mishnah. Beimaya, sarsour, benehem. S'il y avait un intermédiaire entre eux, Nishbera, Chavit, Nishbera, la sarsour. Si le tonneau il s'est abîmé, il a été cassé, alors c'est cet intermédiaire qui est perdant. Miklal derecha, lave be sarsour askinan. Ça veut dire que le premier cas. On n'est pas en train de parler d'un intermédiaire, on parle qu'il n'y a pas d'intermédiaire. On avait dit que s'il y a un intermédiaire et donc qui amène ses propres récipients, si c'est passé par lui, et ben ça c'est dans son tonneau et le tonneau il s'est cassé, c'est lui qui est perdant. Ça veut dire qu'au départ, le premier cas, on ne parlait pas qu'il y avait un intermédiaire. Diagmara, Recha, Mida Belo Sarsour, Sefa Be Sarsour Atzmo. Diagmara, dans les deux cas, alors il y a une différence. Effectivement, il y a une différence entre le premier cas et le deuxième cas. Dans le premier cas, on parle que. La mesure, elle a été prêtée par quelqu'un d'autre, par l'intermédiaire, par exemple, mais lui, il n'était pas là. C'est pas lui qui avait la transaction. Donc, c'est pas que ça passe par lui. Juste, il a prêté. Vous voulez le récipient pour calculer et faire la transaction? Allez-y, je vous prête. Et le cas d'après, qu'on a dit que c'est l'intermédiaire, c'est lui qui acquiert et après il revend. Et s'il y a un problème au milieu, c'est lui qui est perdant. Là, on parle que lui, il est présent. Point. On enseigne dans la Mishnah. Irkina umitzit harehu shel mocher. Si on a penché le récipient, donc le tonneau, et après on a trouvé qu'il y avait encore des gouttes qui se sont regroupées, ça appartient au vendeur. Diagmara, qui salik Rabbi El-Azhar, quand Rabbi El-Azhar il est allé en terre d'Israël, Ashkaha et les Zéhiri, il a rencontré Zéhiri. Amarli, alors Rabbi El-Azhar a demandé à Zéhiri, il ne connaissait pas encore les sages ici sur place. Il lui a dit, Mikan Tana de Atnye Rav Midot, est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Rav lui a enseigné? Est-ce qu'il y a un Rav que Rav lui aurait enseigné des enseignements sur des Mishnayot, des Braytot, sur Midot, sur les mesures? Arvouye Rabbi Rav Yitzhak Barav Dimi. Alors Rabbi El-Azhar, il a dit voilà, il a montré Rav Yitzhak Barav Dimi, lui il connaît. Alors Rav Yitzhak Barav Dimi, il était là, il a demandé à Rabbi Lazar, c'est quoi ta question? Amarle lui a dit, Maïka Kashi Alecha, quelle est ta question? Alors Rabbi Lazar lui a répondu, Détnan, car il y a une Mishnah qui dit, notre Mishnah, il a rapporté notre Mishnah, Irikina ou Mitzit, Harehu Shel Mocher. Si le vendeur, il a mis de côté il a réussi encore à trouver dans le tonneau un petit peu d'huile ou de vin, ça appartient au vendeur, il n'a pas besoin de le donner s'il l'a mis d'une certaine manière et après il y a eu un petit peu de vin ou d'huile qui se sont regroupés, ça appartient au vendeur, pas à l'acheteur. Pourquoi? Ve'atanan, pourtant il y a une Mishnah qui dit, Irkina ou Mitsa, Harizot Truma, à propos des lois de Truma, quelqu'un qui s'est engagé à donner de la Truma, donc il doit donner, qui a fait le prélèvement de Truma pour le donner au Kohen, s'il a, après avoir donné les deux centièmes qu'il faut donner de la Truma, il a encore, donc dans son tonneau, il a encore réussi un peu ça s'est regroupé un petit peu encore d'huile ou de vin, eh bien, c'est de la Truma, il faut la donner encore au Kohen. Alors aussi, on a qu'à dire aussi, chez nous, dans le cas du vendeur et de l'acheteur, si le vendeur, il a trouvé un petit peu d'huile ou de vin, au final, il faut le donner à l'acheteur. Amarle, sur ce, Rabbi Yitzhak Barav Dimi a répondu à Rabbi Lazar, Haït marala, non, on a enseigné à ce propos, Amar Rabbi Abaouk, Rabbi Abaouk a dit, Mishum yush be'alim nag'uba. Dit Rabbi Abaouk, il y en a qui disent Rabbi Abaouk au nom de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Mishum yush be'alim nag'uba. Là, on parle pourquoi effectivement l'acheteur ne reçoit pas cette huile ou ce vin, parce qu'il a désespéré retrouver ça. Il n'était pas intéressé, il préfère, déla il délaisse c'est une toute petite quantité d'huile ou de vin. Il se dit, je restais attendre 3 minutes pour récupérer ça ne m'intéresse pas. Alors même si après au final, il s'avère que l'acheteur il est présent sur place, mais il a laissé ça de côté. Et c'est pas la même chose que dans le cas de la Trouma. Dans le cas de la Trouma, c'est interdit de la manger à quelqu'un qui n'est pas un Cohen, il a obligation de la donner, donc il faut la donner. Mais là, dans le cas où ce n'est dans le cas d'une vente et d'un achat, s'il y a eu de l'huile qui a été trouvée, qu'on a réussi à extraire après au final encore du tonneau, ça appartient au vendeur. On avait vu dans la Mishnah, dernier renseignement, que l'épicier lui-même, il n'a pas besoin de laisser encore une fois qu'il a tout fini de faire couler, de laisser encore 3 gouttes. L'épicier n'a pas besoin de faire passer encore ses gouttes. Et il y avait écrit par la fin que Rabbi Houdaï dit, si on se trouve la veille de Shabbat, juste avant la nuit, juste avant la tombée, avant le, avant la tombée de la nuit, avant le début du Shabbat, dans ce cas-là, le Renvani n'a pas besoin de l'épicier. Dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire. Il n'a pas dit l'épicier. Dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire. Demande à Imra. Sur qui Rabbi Houda il était en train de parler? De quel cas? C'est-à-dire, avant Rabbi Houda, on a vu l'enseignement des sages, qu'il y a une différence entre un vendeur qui vend à son ami, quelqu'un qui n'est pas un épicier, c'est pas son travail, il vend à son ami, lui il doit laisser les 3 gouttes en plus, et s'il s'agit d'un épicier, il n'a pas besoin. Et Rabbi Houda il dit, la veille de Shabbat, juste avant le début du Shabbat, il n'y a pas besoin. De quel cas il parle? Il va y aller où on a demandé. Rabbi Houda, Areshakae Velekula, est-ce que Rabbi Yehuda, lui, ce qu'il a parlé, c'est sur le début de l'enseignement? Ça veut dire, dans le cas où n'importe quelle personne, pas quelqu'un qui est un épicier, qui vend, que d'après les sages, il faut laisser 3 gouttes. Et d'après Rabbi Yehuda, il dit, même cette personne-là, si c'est la veille de Shabbat, il n'y a pas besoin de laisser les 3 gouttes en plus. Et donc, Rabbi Yehuda, il vient donner une permission en plus. Odilma, ou peut-être, à Sefakae, peut-être, Velechumra. Peut-être que Rabbi Houda, lui, il vient, il parle sur la fin de l'enseignement, à savoir dans le cas de l'épicier, que les sages, ils ont dit, l'épicier n'a pas besoin du tout de laisser les 3 gouttes en plus. Et Rabbi Houda, il dit, Si, si, c'est juste la veille de Shabbat que l'épicier n'a pas besoin de laisser, mais sinon il a besoin de laisser. Et dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, donc, il serait plus sévère que l'avis d'avant. Qu'en est-il? Tashma de Aïmara vient, écoute, de Tanya Karim Braita qui dit, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Erev Shabbat imtrashecha, chenvani patour, mipnei chenvani taroud, dit Rabbi Yehuda, la veille de Shabbat, avant la tombée de la nuit, alors dans ce cas-là, l'épicier n'a pas besoin d'amener n'a pas besoin de. N'a pas besoin de laisser ses gouttes en plus. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé. Donc on voit que c'est juste ce que Rabbi Houda vient, hein, c'est dire que c'est juste la veille de Shabbat que l'épicier, on lui a donné une permission. Mais sinon, toute autre personne, même la veille de Shabbat, ou l'épicier tout le reste de la semaine, eh ben, il doit laisser les 3 gouttes en plus. Point. Dit la Mishnah, Shleach Edbno Etzel Chenvani, celui qui envoie son fils chez un épicier. Alors d'après ce que le Rashba me dit, c'est se trouve pas ici, ce que le Rashba me dit, ça se trouve plus loin dans le daf prochain. Il donne 2 explications, donc là je suis juste une petite différence. Mais là on suit donc l'explication qui est la plus. Le Rashba me le dit, ça se comprend plus facilement comme ça. On parle de quelqu'un qui avait donné à l'épicier déjà de l'argent. Il lui a donné un pundion. Pundion, c'est une pièce qui vaut 2 hissars. Un hissar, c'est aussi une monnaie, c'est une pièce. Dans un pundion, il y a 2 hissars. Et il l'a donné à l'épicier. Il a dit à l'occasion, je vais venir, j'ai besoin d'acheter de l'huile. Maintenant, l'homme, le monsieur, celui qui voulait acheter, l'acheteur, il envoie son fils, qui est encore un enfant, il envoie chez l'épicier avec un flacon pour mettre de l'huile à l'intérieur. Il y avait de quoi mettre de l'huile à l'intérieur, un demi-pundion, juste un seul hissard. Une mesure d'huile, que ça coûte que 1 hissar, la moitié de ce qui a été payé. Et voilà donc que l'épicier, ou Madadlo, je saute la parenthèse, ou Madadlo, Beissar Shemen, l'épicier, il a mis dans le flacon de quoi mettre de l'huile pour 1 hissar, la moitié du pundion, Beatano est à hissar. Et à part ça, donc il a donné, donc oh, il a dit à l'enfant, vas-y, tu peux partir, et en plus de ça, il a donné à l'enfant encore une pièce, le hissar, la monnaie, quoi, puisqu'il avait reçu 2 pièces. Il avait reçu une pièce qui coûtait 2 hissars. Et donc maintenant, il rend la monnaie. Et en chemin, l'enfant, il a cassé, Shavar et Asdouchit, il a fait casser le flacon, Veibed et Ahissar, et il a perdu la pièce en plus. Henvani, Chayav. L'épicier, il doit payer tout, même le flacon. Comme on verra, Bezrat Hashem, dans la suite, la Gemara, elle va expliquer. Rabbi Houda Poter, par contre, Rabbi Houda, il dit non. L'épicier n'a pas besoin de payer rien du tout. Shalmelaken, Shalcho. Parce que le père, quand il a envoyé son fils, il l'a envoyé pour que l'épicier lui mette la marchandise dedans. Donc, ça y est, quand l'épicier, lui, il a rendu la pièce et il a donné de l'huile à cet enfant, ça y est, il n'a plus besoin de payer. Diagmara omodim chachamim le Rabbi Houda. Les sages sont d'accord avec Rabbi Houda. Bizman shatzluchit beyad hatinok. Dans le cas où le flacon se trouve dans la main de l'enfant. Alors on donne une explication, bien que la Gemara elle va donner des fois d'autres explications, mais pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est que le flacon il se trouve dans la main de l'enfant, c'est que ce que pour l'instant et après au final aussi, c'est que l'acheteur, non, l'épicier n'a pas pris le flacon de cet enfant. Il lui a laissé chez l'enfant. Umadad, Chenvani le Torah, et l'épicier il a mis donc l'huile à l'intérieur de ce flacon, dans ce cas-là, chez Renvani Patour, les sages ils sont d'accord que l'épicier n'a pas besoin de payer sur le flacon s'il s'est cassé. Point. Alors maintenant, la Gemara veut comprendre c'est quoi la discussion. Bishlama Beissar Veshemen Beappligé. Gemara, ça vient, je comprends bien. Dans le cas par rapport à la pièce, le hissar, la pièce et l'huile, je comprends bien la discussion entre les sages et Rabbi Yehuda que d'après les sages, l'épicier il est responsable. Il n'aurait pas dû envoyer avec l'enfant. Et d'après Rabbi Yehuda, non, l'épicier n'est plus responsable. C'est quoi la discussion? Des Rabbanan Savré, Léodo et Chadré. Les sages pensent que le père, quand il a envoyé son fils chez l'épicier, c'était pour faire savoir à l'épicier qu'il voulait qu'on lui envoie la marchandise. Mais il ne voulait pas que le père n'avait pas l'intention que l'épicier donne la marchandise, l'huile et la pièce à son enfant. Il envoie-moi. Sûrement que c'était les épiciers qui envoyaient par des gens, quoi. Ils avaient des messagers qui amenaient la marchandise. quand de la livraison, qui faisait de la livraison. Envoie-moi, c'était un signe, envoie-moi par quelqu'un, par un adulte, pas par un enfant. Et donc si maintenant l'épicier, lui, il a donné à l'enfant, c'est une irresponsabilité, c'est lui qui prend, c'est l'épicier qui est responsable. Mais Rabbi Yehuda Savar, par contre, Rabbi Yehuda pense, les chadour et les chadré. Il lui a envoyé ça, juste, il voulait simplement, il voulait pas lui faire savoir, mais il voulait juste, il voulait pas simplement lui faire savoir que, tu sais, je veux l'huile, que tu m'envoies l'huile par quelqu'un, mais non, le père de l'enfant, il voulait, voilà, envoie-moi l'huile par cet enfant, l'huile et la monnaie, tu me l'envoies par l'enfant. Et donc, c'est pour ça que c'est le père qui est responsable. Donc, on comprend bien le point de discussion, mais pourquoi l'épicier, il devrait payer le flacon? Et là, on saute le mot chavard d'après le bar, tzlochit, avedamidati, mais le flacon lui-même, pourquoi l'épicier doit le payer? Le père, quand il a envoyé le flacon par l'enfant, on parle donc d'un enfant qui est irresponsable, c'est le père il était d'accord de le perdre, ce flacon-là. Qu'est-ce qu'on veut de l'épicier maintenant? Amar Rav Hoshaya, dit Rav Hoshaya, Acha beba'ala bayit mocher tzlochit askinan. Dit Rav Hoshaya, là on est en train de parler de quoi? On n'est pas en train de parler que l'épicier, le père, il a envoyé avec son enfant un flacon pour mettre dedans de l'huile. Non, on parle que le père, il a envoyé à l'épicier le flacon parce que le père, lui, il vendait des flacons. Et c'était toujours le même prix. Et il voulait l'envoyer à l'épicier pour que l'épicier, peut-être, il était d'accord de l'acheter. Et alors, pourquoi l'épicier devient responsable? On parle que l'épicier, il l'a pris pour vérifier qu'il n'y avait aucun handicap, aucun problème. Et dans ce cas-là, il devient responsable jusqu'à qu'il le rende, jusqu'à qu'il le remette en place. Donc, il le rende au père. « Ukegon shenatlach envani almenat levakra » Et on parle que cet épicier, il a pris le flacon pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème parce qu'il voulait peut-être l'acheter, il voulait l'acheter. Et alors, dans ce cas-là, il est responsable, même s'il y a un cas de force majeure, il est toujours responsable jusqu'à qu'il rende au propriétaire, à savoir le père. Et donc, comme on a dit, d'après, on va voir tout de suite, « Veke de Shmuel » Et ça va comme l'enseignement de Shmuel, « D'amar Shmuel » que Shmuel a dit, « Un hôtel klimin ha'uman » Celui qui prend un récipient d'un artisan, « Almenat levakro » pour vérifier qu'il n'y a pas de problème et puis l'acheter. Et voilà qu'il y a eu un problème à ce moment-là. Avant de l'acheter, « Venenas beyado » Et c'est tombé de ses mains, ça s'est cassé. Alors, « Khayav » celui qui a pris le récipient, il est responsable, il doit payer. Point. Donc l'ima de Shmuel, Tanaehi, dit la Gemara, point. Demande. Alors c'est une question. Jusqu'ici déjà, qu'est-ce qu'on a compris? Que les sages, c'est ça la discussion entre les sages et Rabbi Yehuda. Que selon Rabbi Yehuda, il faudra payer aussi le flacon en plus du reste. Non, selon les sages, il faudra payer le flacon en plus du reste. Parce que, comme on parle que l'épicier, il a pris le flacon dans sa main, donc il fallait le rendre, et il fallait pas le rendre par lui, il fallait le rendre par quelqu'un de responsable. Et d'après Rabbi Yehuda, non, même quelqu'un qui a pris un objet, tant qu'il ne l'a pas payé, il n'est pas responsable. S'il y a eu un cas de force majeure, il n'est pas responsable. Même s'il voulait l'acheter, il s'est dit qu'il allait l'acheter. Dilag Maralima de Shmuel Tanaï, peut-être que l'enseignement de Shmuel, c'est une discussion. Là, on est en train de dire que Shmuel, il n'est que comme l'enseignement des sages. Donc, ça ne serait pas une discussion, ça ne serait pas l'avis de tout le monde. Deïmara, non. Alors, tu peux expliquer autrement la Mishnah. Et là, Rabba, Verav Yosef, Damri, Tarvayou, seulement dit Deïmara, Rabba et Rav Yosef ont expliqué tous les deux. Acha, Bechenvani, Mocher, Tzluchiot, Askinan. Ici, on parle que c'est l'épicier qui envoie, qui vend des flacons. Et donc, on parle qu'il l'a envoyé avec l'enfant. C'est-à-dire, les gens qui achetaient. Donc on parle pas que c'est le père qui a envoyé le flacon avec l'enfant, comme de nos jours un peu, où il y a la bouteille, quand quelqu'un il achète de l'huile, il l'achète aussi avec la bouteille, et donc le vendeur il a envoyé l'huile avec le flacon, et donc d'après les sages, le vendeur il est responsable parce qu'il aurait pas dû envoyer par l'enfant, d'après Rabbi Yehuda, le vendeur n'est pas responsable parce que c'est ce que le père il attendait de ce vendeur, de cet épicier qu'il envoie par l'enfant. Et donc Rabbi Yehuda suit son propre avis qu'il a dit, que le père, il voulait que l'épicier envoie par l'enfant, et les sages suivent leur avis que non, que le père, quand il a envoyé l'enfant, c'était simplement pour dire à l'épicier, envoie-moi après quelqu'un d'autre. Point. Yagmara, oui, c'est ça le point de discussion. Yachid Yagmara, si c'est ainsi, et Masefa regarde la fin de l'enseignement, et écrit, Modim Chachamim de Rabbi Yehuda, Bizman Chat Sluchit, Biyad Atinok, Umadat, Renvani, Letocha, Chez Renvani, Patour. Et écrit à Gemara, les sages sont d'accord avec Rabbi Yehuda que si le flacon il se trouve dans la main de l'enfant et que l'épicier il a mesuré à l'intérieur, que dans ce cas-là, l'épicier il n'a pas besoin de payer. Pourquoi? Si on est en train de parler que le père n'a pas envoyé ce flacon, le flacon il restait, en vérité c'était le flacon de l'épicier, que l'épicier il envoie au père pour lui montrer, pour lui vendre. Et que d'après les sages, le père n'avait pas du tout l'intention que l'épicier lui envoie la marchandise par son fils. Donc dans ce cas-là, pourquoi les sages seraient d'accord que l'épicier n'a pas besoin de payer? Pourtant tu as dit que le père a envoyé son fils simplement pour faire savoir à l'épicier qu'il veut acheter l'huile et qu'il lui envoie par quelqu'un d'autre. Donc dit Agmara une autre explication. Et là, Abaye Baravin, Verabé Hanina Baravin, Namre Tarveu, seulement Abaye, le fils de Avin, et Rabbi Hanina, le fils de Avin, sûrement des frères, qui ont dit tous les deux, Arab Mayaskinan, ici de quoi s'agit-il? Kegon Shenatla Lamudba. Donc on ne parle pas qu'on a dit que soit ni le père de l'épicier, ni l'épicier, ni le père de l'enfant, ce sont des vendeurs de flacons. On parle que le père il a envoyé son fils avec le flacon. Maintenant, bien que le père lui il avait délaissé ce flacon, il savait qu'il l'avait donné à un enfant. Quand même, d'après les sages, l'épicier devra payer le flacon. S'il y a un problème, pourquoi? Parce qu'on parle que l'épicier il a pris ce flacon pour calculer, pour mesurer. Et donc, il devient maintenant responsable de rendre ou que des rabbins, et comme Rabba a enseigné, des amas rabbins, que Rabba, il a dit, ni gisha, ni trayev ba. Rabba, lui, il avait parlé à propos d'une loi qui a écrit, si quelqu'un, il trouve un objet, faut le rendre, faut s'occuper de le rendre au propriétaire de l'objet. Mais non, si c'est quelqu'un que c'est pas son honneur, par exemple, quelqu'un qui est âgé et qui voit une bête dans la rue, il n'est pas obligé de s'en occuper. Il n'y a pas d'obligation de s'en occuper. Cependant, s'il lui a donné un coup, si la personne âgée, elle a donné un coup à cette bête-là, il l'a fait avancer, même si ce n'est pas son honneur, quand même, il faudra s'en occuper. Donc on voit que si quelqu'un, il a commencé, il a un peu attrapé l'objet, bien qu'il n'est pas obligé de le rendre, mais quand il a attrapé l'objet, il faut le rendre. Donc la même chose aussi, cet épicier, s'il a attrapé l'objet, il a pris l'objet, le flacon, bien que normalement, il n'était pas responsable du flacon, mais là, il devient responsable de le rendre au père. Je dis à Gmara, ce n'est pas la même chose. Imour de Amar Rabba, peut-être que Rabba, il a parlé. C'est juste Beba Alechayim, juste dans des animaux. Dean Kitinehu Nigra Brayata, qu'en donnant un coup à l'animal, on l'habitue à s'enfuir. Donc dans ce cas-là, il faut rendre l'animal au propriétaire. Mais qui a Gavna Miamar, parce que dans un autre cas où il ne s'agit pas d'animaux, juste dans notre cas à nous, où l'épicier il a pris la mesure et il l'a rendu à l'enfant, est-ce que dans ce cas-là, Rabba a dit son enseignement qu'il faut le rendre aussi au père, obligatoirement, et pas le faire passer par l'enfant. Donc, il y a une autre explication. Et là, Amar Rava, seulement Rava, il a dit, « Ani, moi, Ve'ari Sheba Habura, et le lion du groupe d'études, Targimenehu, Targimenuha, on l'a expliqué. » Maintenant, c'est qui ça qui était surnommé le lion du groupe d'études, celui-là qui était comme un lion, qui connaissait bien? Rabbi Zera. Umanu, c'est qui? Rabbi Zera, c'est Rabbi Zera. Qu'est-ce qu'on a expliqué? De quoi s'agit-il? On parle que l'épicier il a pris cette mesure pour calculer pour d'autres personnes. Dans ce cas-là, il n'avait pas le droit. Lui, ce flacon-là qu'il a reçu, c'est pour mettre de l'huile à l'intérieur, pour calculer pour lui-même, pour donner l'huile. Mais pas pour calculer pour d'autres personnes. Et l'épicier, il a emprunté sans demander à l'avis au père, au propriétaire du flacon, ça veut dire le père de l'enfant, sans lui demander l'avis. Et quoi? Il y a une discussion, quelqu'un qui emprunte sans demander l'avis, quel statut il prend? Est-ce que c'est comme un statut d'un emprunteur ou c'est comme le statut d'un voleur? Si c'est un voleur, il faut rendre vraiment au propriétaire et lui faire savoir au propriétaire. Si c'est comme un emprunteur, il faut remettre l'objet là où ça a été mis, là où ça a été pris. C'est la suite. Ou Béchoel, Shalomidat, Kamifagi, ils sont en discussion. Rabbi Yehuda et les sages sont en discussion. Quelqu'un qui emprunte sans la connaissance du propriétaire. Il ne voulait pas voler, il voulait juste emprunter. Mais quel statut il a? Mor Savar Shoel Havé. D'après Rabbi Yehuda, cet emprunteur, donc l'épicier qui a emprunté, il a le statut d'un emprunteur. Et donc, il faut rendre à l'endroit où il l'a pris. Donc, s'il a pris de l'enfant, il rend le flacon à l'enfant, ça suffit. Omor Savar, et l'autre avis pense, les sages pensent, Gazlan avis, il a le statut d'un voleur, et il faut le rendre. Ça suffit pas de le rendre à l'enfant. Maintenant, il faut aller le rendre vraiment au propriétaire, à savoir le père. Point. On va s'arrêter ici, Bezrat Hashem. La Gemara parlera encore de la loi de Shmuel, que ce qu'on avait vu, que si quelqu'un il a pris un objet d'un artisan pour voir s'il l'a acheté ou pas, il y a eu un problème lorsque ça se trouvait dans sa main, alors celui qui a pris l'objet, il est responsable. On verra Bezrat Hashem ça dans le daf de demain. Passez une bonne journée, Be'atzlacha, et à bientôt.